Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie.
Salut Pascal, salut Dan.
Salut Dan.
Les gars, Connie vient d'arriver quoi.
J'alterne en fait.
J'alterne, alors il m'a surpris. Ah, voilà.
Tu vois, c'est pas d'automatisme,
ça va, les gars.
Tu vois. Ça va très bien et vous?
Ben, on est bien, on est bien. On est nouvel épisode.
Nouvel épisode. Et du coup, on salue aussi les auditrices et les auditeurs de notre podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'être encore une fois au rendez-vous. On rappelle le principe du podcast pour ceux qui nous découvrent. On est trois copains qui s'intéressons aux relations amoureuses et notre manière de nous intéresser, c'est d'inviter à chaque épisode une femme pour lui poser des questions que nous, on se pose d'habitude entre nous et on le partage en podcast parce qu'on se dit que ça peut intéresser énormément de monde et vu les chiffres d'écoute, on sait que ça intéresse énormément de monde.
Des millions de gens, c'est incroyable.
Mais merci d'être là aussi nombreux.
Non, mais merci d'être là.
On a passé le milliard.
mais tu rigoles, mais on va y arriver.
Un jour, on va y arriver.
80 balais. Le milliard d'écoutes.
merci donc, merci d'être là. Merci à tous ceux qui nous retrouvent sur tous nos réseaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, tous ceux qui écoutent notre centaine d'épisodes sur www.lesgentilshommes.fr et aussi ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. On a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez vous rendre si vous voulez nous soutenir, si vous voulez contribuer pour le prix d'un café à la vie du podcast, à son évolution, à sa communication, à son habillage. Enfin, n'hésitez pas, tous les liens sont sur nos réseaux. Et aujourd'hui, l'épisode du jour va s'intéresser à un sujet qui s'appelle la culpabilité, gros sujet. Et notre invitée, c'est Colline. Salut Colline.
Salut.
Salut Colline.
Qui es-tu?
Bienvenue.
Je m'appelle Colline, j'ai 26 ans, j'habite plus ou moins à Paris, je cherche à partir et j'incarne la culpabilité.
Tu incarnes la culpabilité, j'incarne. Carrément.
Ah bon, je vis au quotidien.
Ça veut dire, c'est quoi le sentiment de culpabilité pour toi?
Pour moi, c'est l'émotion hyper désagréable de se sentir coupable. Et dans mon cas, je crois que la plupart du temps, c'est pas forcément juste. Ou en tout cas, je pourrais me passer de ce sentiment, de cette émotion.
Mais tu te sens coupable?
Que ce soit au travail ou là, à l'instant, quand je sais que je suis écoutée par des millions de gens et que peut-être je vais rater un podcast que j'adore et que je respecte.
Et coupable de quoi?
D'être nul.
Oh. Et tu sais que tu peux pas être nul dans notre podcast parce qu'on va te poser des questions dont t'as forcément la réponse, ça parle de toi.
Oui, pareil.
Et tu te connais forcément sur le bout des doigts, ou à peu près, ou très bien. Enfin, normalement, tu te connais bien. Oui. Donc, il n'y a pas de fausse réponse. Donc, il n'y a aucune raison de culpabiliser.
Bon ou mauvais, en fait.
C'est ça. Je sais que ce n'est pas forcément très rationnel, mais on est dans la culpabilité.
Ce qu'on te propose, c'est que pendant 30 minutes, on met la culpabilité de côté.
Allez.
On la met de côté pour mieux la comprendre.
C'est beau. Beau projet. Ça me va.
On essaye.
Allez, on y va alors.
En tout cas, ne te.
Comment ça se. Alors là. Tu nous dis devant nous que tu te sens coupable. Ça se manifeste comment? C'est de la gêne, c'est ça?
Non, c'est plus de la peur de ne pas être à la hauteur. Et surtout, dès que je dis quelque chose, je me dis oh, c'est pas ce qu'il fallait dire. C'était nul.
Ah oui.
Là, ce que tu viens de dire, là, c'était un peu.
Pas terrible. La vanne sur le prénom.
Oh, Dan. On a dit qu'on mettait de côté la culpabilité.
Non, mais tu vois, tu t'arrives à en rigoler déjà.
C'est sûr. Je le travaille.
Alors, qu'est-ce qui te. Tu nous as parlé de ce qui te rendait coupable, mais alors nous, on va s'intéresser aux relations amoureuses. Dans les relations amoureuses, qu'est-ce qui te rend coupable?
Dans les relations amoureuses, dès qu'il y a un souci, un haut, un bas, j'ai l'impression d'être coupable. En fait, la culpabilité dans les relations, c'est hyper problématique, puisque ça déséquilibre totalement la relation.
Ouais.
T'as des exemples dans lesquels tu t'es senti coupable? Parce que tu dis, vas-y, quel genre de choses où tu t'es senti coupable dans une relation? Tu as un exemple?
Petit festival.
Allez, vas-y. Bah, vas-y, on voit. Hein.
Dans le top 3, je pense qu'il y a un accident de vie. Je pars pour rejoindre quelqu'un de malade, un proche. Je reviens, mon compagnon de l'époque m'a trompé avec plusieurs filles dans notre appartement.
Ouais. Toutes les preuves sont là. T'es partie combien de temps?
Je suis partie 15 jours, quand même, record. Et je suis coupable en rentrant. Je me dis, oh, je l'ai abandonné. Voilà, c'est très
ah
fort.
Ouais, pas mal.
Ah ouais.
Ah oui,
alors,
ça, c'est...
Non, mais... ouais. Pourquoi?
Eh ben, je sais pas. Avec le recul, je sais. Hein, mais, ouais, mais sur le moment, c'est hyper difficile de s'en rendre compte parce que je suis dans un engrenage où, en fait, je culpabilise depuis toujours. J'ai peu de confiance en moi. Et donc, c'est un travail vraiment au quotidien. Et c'est un travail où chaque jour, il faut sortir un peu de sa zone de confort pour se battre, pour être moins timide et pour s'assumer un peu plus, quoi.
Tu penses que la culpabilité est liée à la timidité?
Je pense qu'il y a un vrai lien, en fait. Parce que si j'avais confiance en moi, si j'avais une vraie estime et si je m'en moquais du regard, que j'assumais absolument tout, je ne remettrais pas tout en question. Parce que pour moi, la culpabilité, ça part de là, c'est que je remets absolument tout en question. De ce que je fais, mes actions, est-ce que ça va être bien? Je réfléchis beaucoup trop. Et plus je gagne en confiance, ce qui arrive avec le temps, plus je perds ça. C'est pas visible, hein, mais je vous assure que ça marche.
on revient là-dessus. On reprend au début de ton histoire.
Ok.
D'accord. T'as toujours eu ce sentiment de culpabilité des enfants, j'ai envie de dire.
Oui, je pense. Je pense que c'est quelque chose vraiment que je m'en rendais à peine compte, en fait. Parce que c'était quelque chose qui était avec moi où j'arrive peu à discerner confiance en soi et culpabilité, parce que je trouve ça hyper lié, mais... Mais j'ai toujours ressenti ça. Et je pense que les relations amoureuses m'ont permis de mettre ce truc en exergue et justement d'en prendre conscience pour m'en débarrasser.
Bah, raconte-nous alors, dans tes premières relations amoureuses, comment ça se passe? Quelles sont les relations après? Quelles sont les relations amoureuses clés, on va dire? Comment ça...
J'ai peu été seule parce que, c'est encore sûrement lié, mais il y a ce truc un peu qui revient dans plusieurs histoires, c'est que quand on est une femme, souvent, on cherche un peu de l'amour, on en quémande, et comme les modèles autour de nous sont majoritairement à dire que la femme est là à demander de l'amour, à faire des efforts, et que le mec est un peu plus dans le côté cool, on prend moins le truc au sérieux, je pensais que c'était normal, et donc j'étais là à chercher de l'amour, parce que forcément, je pense que j'en avais pas assez dans ma vie. Et puis ensuite, il y a des mauvaises rencontres, parce qu'il y a des red flags, des trucs où on devrait se rendre compte que là, on n'est pas en tort. Mais plus on a de culpabilité, plus les personnes avec qui on est, si elles ne sont pas bien intentionnées, vont en jouer et vont s'en servir pour être tout le temps avoir le bon rôle, tout le temps être au-dessus, et c'est hyper facile.
C'est ce qui t'est arrivé, alors. T'as rencontré une mauvaise personne?
Voilà, c'est ça. Je pense que c'est là que, c'est en touchant le fond, que je me suis rendu compte du problème avec quelqu'un qui jouait vraiment, et je pense que c'était un schéma qu'il mettait en place avec toutes les filles.
Ouais.
Et c'est ce schéma qui m'a permis de prendre conscience que vraiment là, ça allait trop loin dans la culpabilité, où je ne pouvais pas à ce point me tromper.
Vas-y, Pascal, mais tu peux donner quelques exemples peut-être qu'on comprenne.
Ben, j'avais jamais de ses nouvelles. Il disparaissait pendant des semaines, des mois. Et quand il revenait, c'était de ma faute. Il m'insultait comme on m'avait jamais insulté, vraiment. C'était du harcèlement d'un coup, en me disant que tout ce que je faisais, c'était nul. En ayant des renseignements hyper précis sur ce que j'avais fait, alors que moi, je ne savais absolument pas où il était passé ces dernières semaines.
Mais ça, c'est de la méchanceté pure. Et donc, c'est c'est-à-dire qu'il savait que toi, tu étais fragile au niveau de la confiance en toi et de la culpabilité, et il appuyait dessus volontairement en se disant « je vais lui dire que c'est de sa faute », comme c'est ce qu'elle pense déjà.
Ouais. C'est mon analyse, et je pense que pas besoin d'être mentaliste pour voir que je ne suis pas forcément la plus costaud pour résister à ça, et je pense que ce genre de mec, c'est vraiment... ce qu'ils cherchent.
Et donc, quand toi, tu reçois un message comme ça, d'insulte, tu culpabilises aussi? Tu dis, putain, je l'ai mérité?
Bah oui.
C'est vrai?
Bah, à l'époque, hein.
Oui, à l'époque. Non, mais on se replace dans l'époque.
T'avais quel âge, plus ou moins?
Moi, j'avais 24, 25 ans. Hein. C'était pas si loin.
C'était ta première grosse relation?
Non. Là, je raconte vraiment celle où j'ai touché le fond.
Ok.
J'avais eu d'autres relations avant. Je pense que je suis en couple depuis mes 16 ans et j'enchaîne les relations plus ou moins bancales. Et là... je suis allée dans le très, très, très bancal.
Tu enchaînes, ça veut dire que tu passes d'une relation à l'autre?
Oui. Il y a 15 jours et je retrouve quelqu'un et puis je m'y accroche. Quoi. Une petite huître à son rocher.
D'accord. C'est lié à ton manque de confiance en toi, le fait que tu t'accroches comme ça?
Ouais, c'était vraiment lié à ça, au fait que j'avais l'impression de ne pas avoir assez d'amour. Je ne m'en portais pas, parce que je culpabilise tout le temps, donc je ne me porte pas d'amour. Et donc forcément, j'avais besoin d'en chercher ailleurs. Et donc ça, c'était le moyen facile.
Et alors, si on résume un tout cette première période de ta vie, avant ce monsieur taré là, t'as eu des histoires, tu te fais quand même ton expérience, donc tu sais quand même que tu marches comme ça, non?
plus ou moins. J'en étais pas autant, enfin, pas à ce point conscience, parce que c'était pas aussi flagrant. J'avais pas l'impression, puis je me remettais toujours en question, donc j'avais pas l'impression.
Et du coup, tu sors de cette histoire avec ce monsieur. D'abord, t'es dans quel état et quel est ton rapport à la culpabilité?
Et ben en fait, pendant ça a duré 9 mois cette relation toxique. Pendant les 9 mois, j'étais dévastée, j'étais incapable de faire des choses bien de ma vie parce que ça me prenait tout mon esprit. Je culpabilisais tout le temps parce qu'il avait aussi une situation difficile qui faisait que je me disais oh le pauvre, il était triste. Mmh. Et par contre, au moment où je décide et que j'arrive à mettre fin à cette relation, c'est le bonheur absolu. Je me sens hyper légère et je me dis waouh, là j'ai fait un grand pas, je me rends compte de plein de choses et maintenant ma vie elle va être top.
Mais... Juste comment t'as réussi à mettre fin? Enfin, c'est quoi l'élément déclencheur?
Bon, c'était sûrement... je sais ce que c'était, mais c'était un... C'est pas utile de raconter le détail parce que c'est pas hyper intéressant. C'est juste la goutte de trop.
Mais donc, il y a un truc quand même où tu t'es dit, bam, d'un coup, t'as eu un flash et tu te dis, en fait, c'est... Je suis en train d'aller dans le mauvais sens et en fait, tu t'es rendu compte de tout...
Ouais. En fait, il me rendait très malheureuse. J'étais profondément malheureuse tout le temps. Et en plus de ça, il m'a menacé de me frapper, de me tuer, de violence très grave. Et c'est là que je me suis dit, ouh, on va un peu loin là.
Donc c'est là où tu t'es dit, et là, hop.
Ouais. Là, ça a été immédiat.
Mais donc ça veut dire que ta capacité de culpabilité a cette limite.
C'est ça. Bah, c'est pas mal. Hein.
Donc c'est qui ouais, c'est... Bah, oui, c'est oui, pas c'est... mal, malheureusement.
Je dis, l'instinct de survie, c'est pas mal comme limite.
Ouais,
c'est
j'ai de la chance, ça aurait pu être pire, mais ouais.
Tu as de la chance, mais du coup c'est parce que je comprends qu'on veuille pas rentrer dans le détail, mais moi ce que ça m'inspire, ce que tu me dis, c'est si toi tu as réussi, si tu arrives à enfin si on arrive à creuser comment tu as réussi, il y a peut-être des personnes qui vont nous écouter, qui vont se retrouver, mais qui vont pouvoir se dire attends elle a réussi quand même, alors que manifestement sans vouloir appuyer sur le champignon, t'avais l'air d'être tombé de très bas quoi.
C'est ça. Non, mais en plus, je sais que pendant ces 9 mois, moi, je buvais tous les épisodes, les podcasts des gentilshommes, mais en me rattachant à un moindre truc. Il n'y avait pas que tous les articles, etc. Je m'accrochais parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne trouvais pas juste la force de mettre une fin à ça. Donc, effectivement, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie aujourd'hui d'en parler. C'est parce que je me rends compte qu'on est plusieurs à faire ce schéma qui est hyper toxique, hyper mauvais pour nous. Et je pense vraiment que... On peut tous s'en sortir, être heureux.
Donc, tu sors de cette relation, c'est le grand bonheur. Est-ce que tu t'es débarrassé de ta culpabilité?
Alors, pas tout de suite. Parce qu'au début, je sors et puis j'essayais de m'en sortir un peu et je culpabilisais par rapport à la personne, même toxique, que je laissais.
Oui.
Parce que quand même, je culpabilise un peu. Mmh. Et après, je culpabilise parce que j'étais nulle avec mes proches, parce que j'étais une larve. Je culpabilise parce que peut-être que j'ai abandonné d'autres plans avant lui, qui étaient mieux, plus intéressants, qui sont maintenant plus disponibles. Donc oui, il y a encore un petit peu de culpabilité.
En fait, chaque occasion, c'est un prétexte de culpabiliser, quoi.
Oui, non.
J'ai l'impression dans ce que tu dis, quoi. Ouais.
Non, mais je me remets beaucoup en question. Mais maintenant, beaucoup moins, quand même.
C'est vrai, tu as réussi à te sortir un peu de ça et à, par exemple, tu culpabilises moins aujourd'hui quand tu as un comportement pas forcément top avec tes proches. Enfin, tu vois, je veux dire, si tu te sentais pas bien avec tes proches et que tu culpabilisais de ça, aujourd'hui, est-ce que quand tu te sens pas bien avec tes proches, tu arrives à l'être et à l'assumer et à pas derrière culpabiliser en disant voilà, je suis chiante, je te raconte encore mes problèmes?
Non, ça va vraiment mieux et notamment dans ma relation amoureuse aujourd'hui, il n'y a plus du tout de culpabilité.
Même tu as une relation amoureuse aujourd'hui?
Oui.
Ah.
Même pas une once de culpabilité.
Et t'as pas de culpabilité?
Pas une once.
C'est-à-dire, tu peux nous expliquer un peu les différences du coup? Comment ça se traduit dans ta relation?
En fait, moi déjà, j'ai changé. Quand cette relation s'est terminée, je me suis dit, on va tenter des trucs, on va sortir de sa zone de confort, parce que c'est toujours ce qui a marché avec moi pour prendre un peu plus confiance et puis tout ça. Donc j'ai fait un petit harem, voilà.
Tu peux nous expliquer le concept du harem, là?
Le concept, c'est que je me suis dit, écoute, t'es pas très douée quand tu t'installes qu'avec une seule relation, tu te fais avoir, donc tu vas avoir plein de relations, et tu auras plus, personne n'aura d'importance, et puis eux, ils sont consentants aussi, ils savent qu'il faut pas non plus s'attendre à une merveille, donc tout le monde est très heureux, et ça m'allait très bien.
Petite dream team, quoi.
Petite dream team, voilà. Donc comme ça, on s'ennuie pas, on comble le manque affectif, c'est parfait, tout le monde va bien. Et puis au bout d'un moment, en fait, juste à force de prendre un peu plus confiance en moi, de me relever, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin d'être avec quelqu'un. Donc j'avais plus, pour la première fois de ma vie, de manque affectif. J'étais juste bien avec moi. Et j'avais même plus envie forcément de reparler à des personnes sur Tinder et compagnie.
Donc, tu t'es constitué une dream team, en gros, pour muscler ta confiance en toi, parce que j'imagine que ça a contribué à muscler. En quoi ça a musclé ta, enfin, ça a renforcé ta confiance en toi d'être dans cette dream, d'avoir cette dream team à ta disposition.
D'être la coach de la dream team, quoi.
C'est ça, la boss. Déjà, la première chose, c'est que sur les applis de rencontre, il n'y a pas d'enjeu. Au pire, je les revois jamais de ma vie. Donc, si je suis nulle, bah, je suis nulle et puis c'est fini, on l'oublie, quoi. Déjà, pas d'enjeu.
Ouais. C'est quoi être nul, s'il te plaît?
Être nul. Je sais pas. J'ai toujours peur d'être nul, donc je savais pas qualifier comment l'être.
De te dire que t'es un mauvais coup ou de pas faire quelque chose de bien ou
de dire débile. Un truc débile, d'avoir l'air idiote, que le mec se dise que je suis folle, tout ça. Ce qui pouvait arriver facilement hein, après la relation de 9 mois désastreuse. C'était plus ça.
En fait, c'est la peur du jugement de l'autre, c'est ça? Que l'autre puisse te trouver nul, puisse.
Mais c'est même pas tant la peur du jugement, c'est moi, mon propre jugement. Parce que je sais que mon jugement est bien plus dur que celui des autres.
Donc tu te juges tout le temps.
Oui.
D'accord.
Tu te juges à tout le temps.
Okay. Et maintenant, t'es de moins en moins dans le jugement, en fait. Mmh. Et la Dream Team, ça t'a permis de te dire, en fait, j'ai pas besoin. J'arrive à pécho, il y a plein de mecs qui sont à fond sur moi. Donc finalement, je dois pas être si nul que ça. C'est ça un peu le.
J'avais pas de doute sur le fait que je pouvais séduire. J'avais des doutes sur le fait que je pouvais être intéressante et aimée. Et forcément, avec une Dream Team, on n'est pas aimée, mais on est considérée.
On est intéressante.
Oui. Quand même. Voilà, c'est ça. En fait, j'attendais plus jamais de messages, ce qui était complètement l'opposé avant. J'avais tout le temps des sollicitations, des trucs. Donc, ça m'a vraiment renforcé l'ego, quoi.
Ça, c'est marrant, ça. Parce qu'on a eu des témoignages qui ont eu des baisses d'égo avec les réseaux sociaux. Parce que ça marchait pas bien, parce qu'elles étaient usées de pas trouver des gens qui allaient bien. Et justement, on a vu des pertes de confiance.
Mais c'est parce que j'avais aucune attente.
Ouais.
Et puis, moi, c'est pas la même recherche. Quand tu es sur le réseau et que tu cherches une personne, alors que toi, manifestement, t'en cherchais plusieurs.
S'il ne remplissait pas le cahier des charges, je me disais pas, voilà, encore un échec. Je me disais, bon, allez, c'est pas grave.
Et comment tu l'as constitué la Dream Team? C'est-à-dire qu'il y avait un peu genre un grand, un petit, un gros, un maigre.
C'était plutôt il y a un disponible le lundi, un le mardi.
Ah, oui, okay. par rapport au
le pragmatisme.
Le calendrier, quoi.
Il y a aussi un truc. L'agenda, quoi. Non, il y a aussi un truc très moche, j'avoue. J'avais un mémoire à écrire. J'avais des interviews à faire. Donc, s'ils avaient des boulots intéressants qui pouvaient rentrer dans mon mémoire, je me disais pas mal.
Ah ouais, pas mal.
Pas mal. Donc, c'était.
C'est cool, ça.
Une sorte de management de mon temps.
C'est une façon de lier l'utile à l'agréable.
C'est ça.
Ah ouais, donc c'est bien. Ça t'a... Donc, en fait, ouais, c'est comme ça aussi que tu as redoré ton ego et ça t'a permis donc de réussir professionnellement.
Professionnellement. J'ai réussi mon mémoire.
Enfin, ton mémoire, quoi. Donc,
au la main.
Au niveau des études.
Donc, c'est ça.
Je me posais une question par rapport à la sexualité, justement. Parce que avant, tu étais en couple. Comment ça se passe, une sexualité, quand tu es empreinte de culpabilité?
C'est horrible parce que j'avais jamais eu de culpabilité dans la sexualité et avec cette personne, j'en avais au quotidien parce qu'il me reprochait d'avoir du désir. Ce qui m'était peu arrivé avant.
Il te reprochait d'avoir du désir pour lui?
Pour lui, oui. J'avais l'air vraiment horrible, dévergondée, dégoûtante. Quoi.
Comment ça se traduisait ces reproches? C'était quoi? Enfin, sans vouloir.
Déjà, par. Genre, quoi, il disait, tout simplement, il me repoussait et il me touchait absolument jamais. Ce qui est déjà dur.
Ouais.
Je trouve. Et puis en plus de ça, il le verbalisait en me disant tout simplement que j'étais obsédée et que vraiment ça le dégoûtait. Quoi.
Et quand il te disait ça, toi, tu te sentais coupable du coup? Tu disais, ah putain, je suis obsédée, c'est dégueulasse.
Il me dit, mais le pauvre, avec tout ce qu'il a vécu, et puis moi, je suis là, je l'écoute. Voilà.
Oh purée. Incroyable. Ouais. Voilà. Et comment tu sors de ça, sur la partie sexuelle? C'est ta Dream Team.
Avec la Dream Team aussi.
La Dream Team aussi, parce que j'ai la chance quand même d'être bien entourée. Et c'est pour ça aussi que je m'en suis si bien sortie. J'ai des amis super qui sont complètement décomplexés et qui m'ont beaucoup aidée à juste envoyer toutes ces idées en l'air.
D'accord. Parce que moi, j'aurais eu l'idée, bêtement, hein, quand t'as une Dream Team comme ça, c'est surtout aussi pour en profiter sexuellement.
Oui, ouais, non, mais aussi. Après 9 mois de frustration, c'était bien. Oui.
Et du coup, tu peux nous raconter un peu, non? Non, je rigole.
Mais justement, tu as une Dream Team et comment tu gères tu n'as pas de culpabilité? C'est-à-dire, tu te dis pas, putain, j'ai plusieurs mecs, il y en a peut-être un qui voudrait s'attacher ou machin, tu vois, tu n'as pas de culpabilité à ce niveau-là?
Non, parce que c'était très clair. En fait, je pense que le fait d'avoir autant communiqué sur le fait que, ou simplement, hein, dire moi je cherche absolument rien de sérieux. Non, je projetais pas tout ça, je me laissais la porte ouverte, mais il savait que je voyais d'autres personnes. Et donc à partir de ce moment, ça met quand même des freins. D'accord, les personnes qui me disaient ah, ça me dérange, bah désolée.
Et là, tu n'avais pas de culpabilité quand on disait ça te dérange, tu t'es rendu compte d'une évolution par rapport à avant?
Ouais, moi c'est le premier progrès. J'étais pas.
Bon. Ouais.
Bah j'avais prévenu, donc j'avais fait les choses comme il fallait, donc je voyais pas pourquoi culpabiliser là.
Bah c'est génial parce que ça veut dire que tu as
premier progrès.
Ouais, c'est
premier
génial.
Progrès. Alors il y a d'autres progrès après parce qu'il y a une période après la Dream Team, non?
Bah la période seule. Qui est le plus gros progrès de tous, parce qu'on n'a pas été seul pendant 10 ans et qu'on enchaîne tout le temps la quête d'un amour ou en tout cas d'attention, c'est énorme.
Alors attends, comment tu passes d'une dream team à toute seule?
Bah, c'est commencé à être l'hiver, et franchement, j'ai pas autant de motivation que l'été. et en plus de ça, je ressens quand je suis avec des personnes que finalement, je serais très bien toute seule et que j'ai plus envie.
T'as plus envie de, change, t'as plus envie de quoi?
J'ai plus envie, j'ai plus le besoin de. Alors, c'est de voir des hommes toujours, mais d'être à ce point dans. J'ai un peu l'exagération.
Désirer à fond tout le temps.
Ouais. Puis j'ai autre chose, commence à avoir d'autres activités qui me plaisent plus. voilà, je varie mes activités, mes passe-temps, quoi.
Donc, tu fais sortir la relation amoureuse de ton schéma, quoi, enfin de ta vie, quoi.
Pas de ma vie, parce que je me dis pas, je serai toute seule toute ma vie.
Ouais.
Mais en tout cas, je me dis, bon, pour l'instant, j'en ai pas besoin. J'ai plein d'autres trucs qui me permettent d'être épanouie seule. Parce que c'est ça aussi, ben, ça, on parle pas de relation homme-femme, mais pour moi, culpabiliser, je sors beaucoup de ma zone de confort en faisant des trucs qui me font plaisir, des trucs où j'ai l'impression de m'accomplir seule. Mmh. Et donc, une fois que j'ai mis plein de choses en place, j'ai forcément moins de temps. Et puis, moins l'envie.
Ouais, et s'accomplir seul, c'est la deuxième étape, en fait, pour retrouver de l'ego, ou je sais pas.
Bah, en tout cas, pour pas plonger vers le premier idiot qui a pas envie de m'accorder beaucoup d'attention, quoi.
D'accord. Ah, l'attention. OK. Parce qu'en fait, t'avais des attentes des hommes avant. T'attendais de l'attention.
Bah, moi, j'en donnais beaucoup.
Ouais. Et t'attendais la même chose en retour.
Et j'aurais espéré être dans une relation équilibrée, parce que je pense que c'est le principe pour que ce soit à peu près sain.
Oui.
Et c'était toujours très déséquilibré.
Oui, tu parlais de ça tout à l'heure, tu en as parlé de déséquilibre dans le couple.
Ouais.
Tu peux nous expliquer un peu en quoi la culpabilité, ça fausse la balance pour toi?
Ça fausse la balance parce que je me remettais tout le temps en question. Et donc, de ce fait, l'autre personne avec qui j'étais ne le faisait pas. Or, il était possible qu'il ait des torts, des choses qui nous rendent moins heureux ou en tout cas qui instaurent une distance. Et en plus de ça, plus je m'excusais, plus il me sentait acquise, et je pense que c'est pas du tout séduisant, en fait. Je ne pense pas, je le suis sûre, que c'est absolument pas séduisant, et donc plus j'étais acquise, coupable, négative, triste, moins j'étais attirante.
Tu penses que c'est un cercle vicieux, ça? Et tu penses que t'as choisi, de façon inconsciente, des mecs aussi qui profitaient de ça, vraiment à chaque fois? Parce que tu nous as parlé de la relation qui était vraiment dure, mais même avant, c'était... Ouais.
En fait, je parlais d'un accompagnement de mes amis, mais j'ai eu aussi un accompagnement psychologique. Et c'est vraiment ce travail qui m'a permis de mettre en évidence les schémas répétitifs désastreux. Et le fait qu'en fait, finalement, peut-être que c'était plus simple d'aller vers des relations qui étaient des défaites, que c'était couru d'avance. Il n'y avait pas de déception. Dès le début, dès les premières semaines, ils étaient atroces. Bon, bah, 9 mois plus tard, ils l'étaient toujours, peut-être même un peu plus. Mais au final, je me disais, oui, bon, bah, c'est de ta faute, tu le savais. Et je ne m'étais pas livrée, je n'avais pas été déçue. Je ne prenais pas le risque de montrer, de me dévoiler à quelqu'un qui allait me décevoir. Voilà, ouais. Début du changement.
Et je reviens un tout petit peu en arrière. La culpabilité pour toi, c'est que vers toi. Tu n'as jamais eu la culpabilité vers quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de lui dire des trucs pour le faire culpabiliser.
Non, je ne pense pas.
Même dans toutes tes histoires, c'est-à-dire que vraiment, c'est un truc centré, quoi.
Ah ouais.
Parce que dans les couples, enfin, ça marche aussi, ça peut marcher comme ça aussi.
Tu veux dire de faire culpabiliser l'autre?
Bah oui.
Mais je connais bien ce système puisqu'on me l'a fait.
Ouais.
Du coup.
Bien sûr. Mais à sens unique.
Ouais.
Et donc le déséquilibre était complètement total. Alors maintenant, quand t'as passé tes toutes nouvelles étapes, après ta phase de célibat, qu'est-ce que tu te dis? Tu dis maintenant j'ai réenvie ou?
Absolument pas. J'ai juste de la chance. Je suis chez Picard et une amie me parle de son cousin super qui arrive en France, à Paris. Et elle me dit, mais c'est évident, vous iriez trop bien ensemble. Elle me parle de lui et coup de foudre.
Et Banco.
Banco. On vend la caravane, c'est lui, tout ça.
Coup de foudre, mais pas chez Picard.
Non, pas chez Picard. Mais quasiment, quasiment. On parle de lui, on me décrit le personnage, on me donne son CV, je me dis, intéressant. Et après, je le rencontre et c'est vrai que oui, c'est un coup de foudre.
Et là, comme tu n'as plus de culpabilité, la relation est complètement différente.
Ouais.
Elle est plus équilibrée.
Mais j'ai jamais eu une relation épanouie, en fait. Donc oui, totalement équilibrée. Il y a... J'ai aucun reproche à me faire, aucun reproche à lui faire non plus. Je ne pense pas qu'il y ait à m'en faire non plus. C'est super. Tout va bien.
Génial.
Incroyable. Ça, c'est magnifique.
Qu'est-ce qu'il a, ce garçon-là, pour être si, si formidable?
Sortons un peu du sujet de la culpabilité, parce que bon...
Non, mais explique-nous pourquoi il est si fort. Enfin, qu'est-ce qui, surtout par rapport à tous les autres mecs que tu as eu avant.
Il y a un truc
que j'ai... Tu vois la différence au premier, ah, oui. premier abord?
Rien à voir. C'est évident, en fait, j'ai souvent entendu que... on s'intéressait, enfin, j'ai souvent des amis qui me disent non, mais il est trop gentil. Voilà. Bon, bah voilà, il est gentil. En fait, moi, c'est ça. Je me suis dit, bon, il est gentil.
Oui, parce qu'il est trop gentil, c'est pas un compliment. Hein,
oui,
non, mais... en général. Mais là, pour, peut-être là, qu'en aussi. Fait, ça l'est.
Oui. Non, mais il n'est pas gentil dans le, genre, dans le style stupide. Il est bienveillant.
Il est juste il est attention... hyper bienveillant, quoi.
Voilà.
Il est attentionné.
Oui. Il n'a pas mauvais fond, en fait. C'est surtout ça. On a une relation. Étant donné que moi, je pense vraiment avoir du mal à, être... à penser aux mauvaises choses qu'on pourrait me faire. Ça me soulage d'un point.
Avec le recul, donc, on peut ré-schématiser et on va réduire en disant que, en gros, avant lui, tu es sorti avec des personnes qui avaient mauvais fond, comme tu viens de le dire. On peut.
Pas forcément,
pas
mauvais,
forcément
fond.
Mauvais fond.
En fait, je pense que bon, y a eu une personne qui avait mauvais fond.
Ouais.
Les autres, c'est simplement qu'elle n'avait pas envie de la même chose que moi, qu'elle le disait ou non, plus ou moins. En tout cas, que ça se voyait. Il y avait donc les red flags là, dont je parlais tout à l'heure, mais que je me disais. Il y a un petit challenge quand même. Peut-être que là, il me dit qu'il n'a pas tout à fait envie d'être avec moi. Peut-être que ses amis m'appellent à chaque fois par des prénoms différents pour me faire une bonne blague. Mais est-ce que je ne ferais pas un petit challenge? Je me disais vraiment ça, quoi. Je me disais, mais ça se tente.
Donc, c'était une part de toi qui se disait,
non,
c'est pas
faute,
pour
hein.
moi et je vais dans une direction qui est un peu compliquée, mais ça se tente parce que ça va changer avec moi.
Pas mal. Pas ça va changer avec moi, mais je me dis... Oh, je l'aime quand même, je m'en fiche, j'y
D'accord.
vais.
Voilà. Et après, à partir de là, tu culpabilisais d'avoir fait ce choix
Bah évidemment.
Ouais. Ouais, donc c'est un cercle vicieux en fait.
Ouais. Ouais.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, je te le souhaite pas, hein, qu'est-ce qui pourrait te faire replonger? C'est quoi sur les points sur lesquels tu dois être vigilante?
Aujourd'hui, je pense vraiment avoir changé, je le sens dans les histoires que j'entends. En fait, aujourd'hui, je sais d'avance les histoires, je sais qu'il y a encore des personnes qui disent « peut-être qu'il va changer ». Je suis plus capable de croire en changement des personnes.
D'accord. Donc
il faut que le mec soit bien direct, quoi.
C'est pas bien direct. C'est en fait soit on est sur la même longueur d'onde, soit on l'est pas et on se fait pas de mal. Et c'est pas grave.
Donc tu casses un peu le mythe du mec connard qui est en mode genre oui, mais en fait je vais changer, quoi.
Bah, et c'est possible. C'est pas ce qui me convient. Je dis pas que c'est pas la chose à faire. C'est ça. Je l'ai fait longtemps. Ça m'a parfois rendue heureuse, parfois très malheureuse, mais c'est plus du tout ce dont j'ai envie aujourd'hui.
C'est génial parce que tu as réussi à te trouver et à te préserver toi-même et je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à faire et bravo d'y arriver de cette manière-là.
J'ai de la chance, mais oui.
Oui,
mais, la chance,
mais... tu as travaillé aussi, j'imagine tu as réussi à trouver les clés et c'est top de venir partager ça.
Le RM.
C'est possible, quoi. Ouais, le RM, du coup, c'est une bonne méthode. Hein.
Mais c'est vraiment la meilleure méthode.
En confiance en soi, c'est la meilleure méthode. Oui. Tu recommandes.
Mais je le recommande à tous, vraiment. Enfin, toutes les belles.
Tous aussi. Je prends note.
C'est pas une excuse pour le faire. Hein.
Non, je prends juste note, je ne fais pas.
Toi, tu vas repasser un moment en mode RM ou pas du
non,
tout?
Non, mais coup de foudre, c'est bon, je me marie, moi.
Je sais, mais après, tu peux te dire un peu
non,
plus
non,
tard.
Là, c'est fini.
Vous avez signé.
C'est signé, hop.
C'est bon, quoi. Emballé, voilà. C'est pesé.
Non, mais ça, je ne sais pas, évidemment.
Bien
mais
sûr.
Mais c'est pas quelque chose, en tout cas, que je juge. Et je me souviens très bien des premiers dates que j'ai fait avec des personnes pas rencontrées sur les réseaux, un peu comme ça. Je sais que j'étais horrible. Hein. J'étais incapable d'être moi-même et je me parlais à moi-même en me disant oh là, mais si tu dis ça, il va te trouver nul. Voilà. Donc c'est pas à refaire. Et par contre, les réseaux type Tinder, etc., Bumble, m'ont permis de me dire non, mais tu le revois plus jamais, donc tente. Voilà.
Mais avec ton mec de maintenant, est-ce que de temps en temps. T'as des relents de, justement, tu dis « Ah ouais, mais attends, là, je vais être nul si je fais ça. » Pas du tout.
Jamais.
Jamais, jamais.
Jamais, jamais.
Ah, le mec te met en confiance.
C'est un truc de ouf.
Quoi, c'est...
Mais parce que c'est stable, il est apaisant. Voilà.
Ah ouais.
T'as dit fiabilité. Ouais, fiabilité, on l'a déjà entendu plusieurs fois dans le podcast.
Ouais, c'est...
On a entendu beaucoup de filles qui attendaient la fiabilité.
C'est un critère important, la fiabilité.
Ouais.
Ouais. Bah, ça enlève en fait toute la peur, la culpabilité, le manque de confiance qui va avec.
Ouais.
Parce que la confiance, c'est quand même important dans un couple.
Ah bah quand même.
A priori.
Ouais. Ok.
Très bien.
Bah merci.
Joli mot de la fin.
Ouais. Merci. Ouais, joli mot de la fin.
Merci à vous
beaucoup d'être venu partager ce témoignage plein de. Enfin, c'est génial quoi. Moi, je me mets à la place des gens qui vont l'écouter et je me dis c'est cool. Enfin, c'est cool de leur donner ce message là.
Je me flagelle pas ce soir alors.
Comment ?
Je ne me flagelle pas ce soir, c'est bon ?
Ah non,
bah non, c'est bon justement.
Interdiction totale. Ouais.
T'as été au top.
Pas pour nous ce soir.
Pas de culpabilité, rien. Hyper bien.
Et donc merci les gars pour cet épisode. Merci Mitch, toujours présent. Merci Cynthia, merci Pierre et Berzou et le studio Restless qui nous héberge, qui est une radio que vous pouvez aller écouter sur internet. Et ben nous on se retrouve la semaine prochaine dans un prochain épisode. Et puis si vous voulez nous retrouver avant, on est sur Instagram. Si vous voulez nous soutenir, on est sur Tipeee. Et puis voilà, on vous attend. Venez échanger avec nous, écoutez-nous, partagez-nous. Let's go quoi.
On vous aime.
Absolument.
À bientôt. Merci. Ciao. Ciao.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.